Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 13? Romains, chapitre 4, au verset 13. Depuis maintenant 4 semaines, nous sommes rentrés dans la série que nous avons intitulée « Héritier des promesses par la foi ». Dis avec moi « Héritier des promesses ».
«
Par la foi ».
Par la foi.
C'est un sujet extrêmement important. Et depuis plusieurs mois maintenant, vous n'êtes pas les seuls à écouter ces messages. Tous ces messages sont écoutés et réécoutés jusqu'à l'étranger. Les messages que vous écoutez ici sont extrêmement écoutés sur Internet, sont très écoutés sur Internet. Je vous assure, il y a beaucoup de gens qui écoutent ça sur Internet. C'est une grâce, ok? Dis avec moi, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous passer les salutations de deux personnes qui sont au Congo-Kinshasa. Je ne sais pas ce qu'on a avec le Congo-Kinshasa, mais je vous assure, on a quelque chose avec le Congo-Kinshasa. Je ne sais pas parce que j'ai épousé une Congolaise de Kinshasa, mais les gens de Congo-Kinshasa m'écrivent d'une manière très particulière. Et c'est bien, gloire à Dieu. Et les gens de Kinshasa écoutent énormément les messages. S'il y a bien des gens qui écoutent le plus les messages dans les statistiques qu'on regarde, ce sont les gens de Congo-Kinshasa. Et cette semaine, on a eu les salutations de deux personnes qui ont fait deux dons à l'église. Elles ont fait deux gros dons. Dis avec moi de gros dons. Voilà. Et l'une d'entre elles a dit, pasteur, je fais ce don pour sceller mon année 2015 au nom de Jésus-Christ. Elle met ça sur son mail. Et puis elle met le montant de son don. Et le don est arrivé. Et la deuxième personne disait, pasteur, franchement, on bénit le Seigneur pour la maison du bâtisseur, pour tout ce que vous faites et pour la direction vers laquelle vous êtes en train d'aller. Sachez que la maison du bâtisseur est une église qui est très appréciée à Kinshasa. Et ne vous étonnez pas si en 2015, les gens de Kinshasa commencent à solliciter la maison du bâtisseur de plus en plus. Il y en a un qui m'avait appelé de Kinshasa et qui avait dit, il n'y a pas une église, la maison du bâtisseur à Kinshasa, pour qu'on aille là-bas. Parce que nous, c'est là-bas, c'est la maison du bâtisseur qu'on va aller. J'ai dit, non, pas encore. Mais on arrive. Hein? Dis amen avec moi.
Amen.
On va arriver. Hey. Ah, la conquête des promesses. Hein? Romains 4, 13. Gloire à Dieu. C'est notre verset de base. Un verset très important. En effet, ce n'est pas par la loi. Alors, je vais le mettre au mieux. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Dis avec moi la foi.
La foi.
Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers, dis avec moi les héritiers, le sont par la foi, dis avec moi la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée en ce qui concerne la possession des promesses, la possession de notre héritage en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point. Activer la foi pour posséder son héritage. Dites-moi, activer la foi. Pour posséder son héritage. L'héritage est disponible. C'est ce qu'on dit depuis plusieurs semaines. Quand on ouvre la Bible nous parle tout le temps d'un héritage. La Bible nous dit tout le temps qu'il y a des promesses qui ont été faites pour nous, Dieu a fait des promesses à notre sujet, etc., etc. Tout un tas de promesses. Il y a un héritage qui est disponible. Mais, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi alors la plupart des enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, particulièrement au Gabon où nous sommes, ne vivent pas comme ils devraient vivre. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons, mais il y a une condition majeure, très importante, dans le royaume de Dieu, qui s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Et avant d'entrer en détail dans les promesses, avant d'entrer en détail dans notre héritage, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la foi. La foi est l'un des sujets dans la Bible pour lesquels il est très difficile de donner une définition. Parce que la foi ne s'explique pas. La foi se vit. Vous voyez ce que je veux dire? La foi s'expérimente. On n'explique pas la foi. On croit, c'est tout. Si quelqu'un te dit, explique-moi un peu cette histoire de Jésus là, auquel tu crois, là, explique-moi. Tu dis, je ne peux pas t'expliquer ça. J'y crois, c'est tout. Donc tu crois que Jésus est venu il y a plus de 2000 ans et qu'il est ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel et qu'aujourd'hui il vit dans ton cœur. Tu crois en tout ça? Tu dis, je crois. Mais explique-moi ça un peu. On ne peut pas l'expliquer. On le croit, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'un jour, on était quelque part et on a été en contact avec la parole. Et lorsqu'on a été en contact avec la parole, tout d'un coup, on a reçu quelque chose de très fort dans notre cœur qui nous a dit, donne ta vie à Jésus. Et quand tu as donné ta vie à Jésus, depuis, tu ne sais pas, tu ne l'expliques pas. Tu as juste un désir, une passion de connaître Jésus. Amen. Ce désir de connaître Jésus, tu ne l'expliques pas. Tu le ressens, tu le vis. Le matin, tu te lèves, tu ne comprends pas pourquoi. Quelque chose se dit dans ta tête, prie, va prier. Et quand tu pries, tu commences à dire merci Seigneur, merci Jésus. Je te rends grâce pour cette journée. Merci pour la paix dans mon cœur. Merci pour la santé. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon travail. Merci pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Comment tu expliques ça? Tu ne l'expliques pas. Tu l'expérimentes. Et ça, c'est ce qu'on appelle la foi. Dis avec moi la foi. Les promesses, l'héritage est disponible. Tout ce qui est écrit dans la Bible, on peut l'expérimenter. C'est pour ça que la Bible s'appelle la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible, on peut l'expérimenter. Mais la condition majeure pour expérimenter, pour vivre ce qui est écrit dans la Bible, s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Dis-le encore plus fort, la foi.
La foi.
Secoue le plafond, la foi.
La foi.
Voilà. Et notre héritage, il est disponible comment? Notre héritage, il est disponible par un procédé, par une substance ou bien par une faveur que Dieu a faite qu'on appelle la grâce. La grâce est ce qui nous donne accès aux promesses que Dieu a faites pour nous. On va revenir sur la grâce très longuement dans les prochaines semaines. Ok? Mais pour que la grâce puisse être libérée sur ta vie, il faut que tu aies la foi. Sans la foi, personne ne peut expérimenter les promesses. Sans la foi, personne ne peut voir Dieu. Amen. Amen. Et après avoir compris qu'on a un héritage, il est important de comprendre pourquoi Dieu ou encore la Bible nous demande d'avoir la foi. Pour beaucoup d'entre nous, on ne vit pas Dieu comme on devrait le vivre. On ne grandit même pas spirituellement. On n'atteint pas la maturité spirituelle parce qu'on n'a pas la foi. Le moindre petit événement, le moindre petit choc, la moindre petite douleur, c'est fini. On rétrograde, on tombe. On retourne en arrière. En dehors de la foi, il n'y a aucun autre moyen d'accéder aux promesses. Et la clé de la libération des promesses dans notre vie, c'est de découvrir les promesses dans la Bible, dans les Écritures, et de croire que Dieu est capable de les accomplir. Amen. Ça s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Et les promesses, qu'est-ce que c'est? Les promesses, c'est le fruit de la grâce. Les promesses qui sont inscrites dans la Bible, promesses de santé divine, promesses de guérison, promesses de paix, promesses de prospérité, promesses de grâce et de faveur dans n'importe quel domaine de ta vie, tout ce que la Bible dit à ton sujet, c'est possible. Mais pour vivre ça, il faut avoir la foi. Amen. C'est très important. Et pour que les promesses, on puisse les posséder, on puisse les saisir, il faut qu'il y ait un événement qui se passe. Cet événement, c'est la rencontre entre la grâce de Dieu et la foi, notre foi. Il faut que la grâce de Dieu, qui est disponible, qui est permanente et qui est éternelle, puisse rencontrer notre foi. Le problème que Dieu a, c'est que lorsqu'il libère la grâce dans notre vie, très souvent, il ne trouve pas la foi. Tous les gens dans la Bible qui ont manifesté la foi et qui ont rencontré la grâce ont expérimenté quelque chose d'exceptionnel. Vous voulez que je vous dise c'est qui la grâce? La grâce, c'est qui? La grâce, vous n'avez pas vu quand vous donnez, quand vous nommez votre enfant, quand vous donnez un prénom à votre enfant quand il vient au monde. Souvent, il y a papa qui veut donner un prénom et il y a maman qui veut donner un autre prénom. Et puis, on n'arrive pas trop à se décider. Et puis, quand on n'arrive pas à se décider, on donne les deux prénoms. Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, tu as des Richard, Claude, Obama, Gimmons, tout ça. Ou bien, il y en a qui ont même six noms, comme ma femme. Tu as combien de prénoms? Elle a beaucoup de prénoms. Si vous prenez sa carte d'identité, beaucoup de prénoms seulement. J'ai dit tout ça pour toi. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça parce qu'on a voulu lui donner plein de prénoms. Eh bien, Jésus, son premier prénom, c'est Yeshua. Jésus. Et Jésus a un deuxième prénom qu'on appelle la grâce. Amen. La grâce, ce n'est pas un mot. La grâce, ce n'est pas une phrase qu'on a écrite dans un livre. La grâce, ce n'est pas une idée que Dieu a eue un jour. La grâce, c'est une personne. Dis avec moi une personne. C'est là la puissance de la grâce. La grâce, c'est une personne. Et quand tu rencontres cette personne qu'on appelle la grâce, en la personne de Jésus-Christ, et que tu mets ta foi en lui, le miracle se produit. Amen. C'est très important de comprendre ça. Et ça va être un sujet extrêmement important, un enseignement très important qu'on va avoir en début d'année. La grâce divine que nous avons en Jésus-Christ, elle est effective. Amen. Mais la grâce, pour être libérée dans notre vie, elle nécessite la foi. Et quand la grâce entre en contact avec la foi, le miracle se fait. Quand, par exemple, quelqu'un est malade, il est assis sur une chaise roulante, la guérison n'est pas un événement futur. La guérison est un événement accompli. En Jésus-Christ, tout ce qu'il a à faire, c'est de saisir sa guérison, de le croire. Et il se lèvera de sa chaise. Comment? Par la foi. C'est comme si Dieu tend la main et dans sa main, il a cette promesse-là qui s'appelle la guérison. Et quand il te la tend, comment fais-tu pour saisir sa main, pour récupérer ça de sa main? Eh bien, tu le saisis par le bras qu'on appelle la foi. Amen. C'est pour cela que vous pouvez avoir deux personnes qui sont assises au même endroit. Tous les deux ont la même maladie. Tous les deux sont dans la chaise roulante. À la fin du culte, il y en a un qui va se lever, l'autre va rester assis. Pourtant, l'autre va dire, mais moi aussi je voulais me lever, moi aussi j'ai cru, moi aussi j'ai prié. Quelle a été la différence entre les deux? Ce n'est pas que Dieu a manifesté plus de grâce à l'autre. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Si les dieux ne sont pas, si les deux ne sont pas dans le péché, si les deux sont en accord avec la parole de Dieu, si les deux sont sanctifiés, sont chrétiens, vont à l'église, etc., et les deux cherchent à avoir la guérison, mais qu'il n'y en a qu'un qui est guéri, ce n'est pas que Dieu a manifesté plus de miséricorde à l'un qu'à l'autre, c'est que l'un a eu plus de foi que l'autre. Où est-ce que je veux dire? Tout est une question de foi. Tout commence par la foi. De même que dans le ventre de la maman, quand le papa est libéré et que les spermatozoïdes vont vers l'ovule, et que l'ovule, au moment où il rencontre, le spermatozoïde, au moment où il rencontre l'ovule, il y a cet événement que l'on appelle la fécondation. Hein? Tout le monde connaît ça, comment on comprend ça, non? Ou bien c'est compliqué. Hein? Tout le monde sait c'est quoi la fécondation. Qui ne sait pas c'est quoi la fécondation? Ou bien je fais un cours de biologie tout de suite. Hein? Quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a ce qu'on appelle une fécondation. Et c'est ce qui donne vie au bébé. Ok? Ça, c'est une fécondation naturelle. Mais lorsque notre foi rencontre, la grâce, il y a ce qu'on appelle une fécondation surnaturelle. Et le bébé s'appelle miracle. Amen. C'est extrêmement important de comprendre ça. Qu'est-ce que la foi? Si je peux donner une définition. On va aller vite sur ce sujet, mais c'est très important de s'y arrêter. Qu'est-ce que la foi? Nous sommes dans le royaume de Dieu. Dis avec moi le royaume de Dieu. Nous, les enfants de Dieu, on est dans le monde, mais avant d'être dans le monde, on est dans le royaume. Pour savoir, pour que tu aies une image du royaume de Dieu, quand je dis on est dans le royaume, il y en a beaucoup ici, vous ne comprenez pas quand je dis ça. Imagine que tu es dans un sous-marin et que le sous-marin est immergé dans l'eau. Quand tu es dans le sous-marin, tu vis dans le sous-marin, tu te déplaces dans le sous-marin, tu dors dans le sous-marin, tu manges dans le sous-marin, tu regardes la télé dans le sous-marin. Hein? Et quand tu vas vers le hublot, ou encore la fenêtre, tu regardes ce qui se passe dans la mer. Et dans la mer, tu vois les poissons, tu vois les requins qui viennent, qui mangent les petits poissons, tu vois les petits poissons qui mettent des gifles aux requins, tu vois plein de choses. D'accord, sous l'eau. Mais tu observes, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Amen. Et bien, c'est exactement la même chose dans le royaume. On est dans le royaume, on grandit dans le royaume, on expérimente tout un tas de choses avec Jésus-Christ dans le royaume et on observe ce qui se passe dans le monde. Un chrétien, un enfant de Dieu, qui, étant dans le royaume, commence à fonctionner comme les gens du monde, à faire les choses du monde, c'est un chrétien qui était dans le sous-marin et qui a pris le marteau et qui a cassé le hublot. Si tu casses le hublot, qu'est-ce qui va se passer? La mer rentre dans le sous-marin et tu vas te noyer et tu vas noyer tous les autres qui sont dans le sous-marin. Et vous allez vous retrouver au ciel, ils vont te bastonner là-bas à cause de ton péché. C'est pour ça que quand tu pêches, en général, quand tu pêches, c'est pas juste toi que ça impacte, tu impactes aussi tous les gens qui sont attachés à toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important de ne pas casser le hublot. Casser le hublot, c'est pécher. Donc, quand tu pêches, tu risques de te noyer. C'est pour ça que quand tu pêches, repends-toi vite et reviens vite. Ferme le hublot. Il y en a, ils laissent le hublot ouvert et puis ils aiment rester le hublot ouvert. C'est comme si on dirait qu'ils se plaisent là-dedans. Non, c'est très dangereux parce que c'est ta vie qui en dépend. Amen. Donc la foi, c'est croire, c'est vivre dans le royaume, fonctionner dans le royaume, opérer dans le royaume et s'attendre à ce que Dieu nous bénisse dans le royaume. Mais le monde, on n'appartient pas au monde. On est dans le monde, on voit ce qui se passe dans le monde, mais on n'appartient pas au monde. La foi dans le royaume, on ne peut rien faire sans elle. On ne peut rien faire sans la foi dans le royaume. Elle est le générateur de tout ce qui existe dans le royaume. Le christianisme sans la foi est vide. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que tu vis sur la terre est le produit de la foi. Tout. Rien de ce que tu vis sur la terre ou de ce que tu peux obtenir sur la terre, tu peux l'avoir ou tu peux le vivre sans la foi. Ce n'est pas possible. Tout est une question de foi. Dis avec moi la foi. Tu ne trouveras jamais sur terre un géant dans la foi qui ne soit pas aussi un homme à succès dans tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas possible. Montre-moi un géant dans la foi et je te montrerai un géant sur la terre. Amen. Quelqu'un qui a beaucoup de foi, c'est quelqu'un qui fait des exploits avec Dieu. Ah oui, je sais de quoi je parle, je t'assure. Je t'assure. La foi dans le royaume est le facteur déterminant. Tout ce que tu veux faire dans le royaume, tout ce que tu veux recevoir dans le royaume de Dieu, tout ce que tu veux recevoir en tant qu'enfant de Dieu, tout passe par le canal qu'on appelle la foi. Tout chrétien qui n'a pas la foi finira misérable. Tout chrétien qui n'a pas la foi n'est pas différent des gens du monde. Amen. Dis avec moi la foi. Sans la foi, rien ne vit. Sans la foi, tout est mort. Sans la foi, on ne peut rien obtenir. Et pour mieux comprendre encore, pour aller encore plus en profondeur sur la foi, en ce qui concerne les promesses, j'ai énuméré ce que j'ai appelé les vertus de la foi. Plusieurs choses que l'on peut dire sur la foi. On peut rester ici jusqu'à 18h et parler de la foi. Amen. Mais bon, pour une question de temps, on va aller à l'essentiel. Mais j'ai énuméré plusieurs vertus. J'en ai énuméré 6. J'en ai trouvé beaucoup d'autres aussi, mais pour une question de temps, je vais en donner 6 ici. Dis avec moi les vertus de la foi. La première vertu que l'on peut dire au sujet de la foi, c'est que la foi est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Sans elle, on ne peut rien acheter. Dis avec moi la monnaie d'échange. Quel que soit, c'est ça qui est extraordinaire avec le royaume de Dieu, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves sur la terre, la foi est la monnaie d'échange. Que tu sois au Gabon, que tu sois au Congo, que tu sois au Zaïre, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique du Sud, la foi marchera toujours. Vous voyez ce que je veux dire? La foi, c'est une devise universelle dont le taux de change ne change jamais. Quand tu as du CFA, ou bien des euros, ou bien du dollar, en fonction de là où tu es, ça n'a pas la même valeur, n'est-ce pas? Eh bien, la foi, la valeur reste la même. Celui qui sait comment activer sa foi est celui qui peut obtenir tout ce qu'il veut de la vie, de Dieu. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, au verset 6. Hébreux 11, au verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie. » Dis avec moi, croie. Que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Dis avec moi le rémunérateur. De ceux qui le cherchent. Rémunérateur, là, ce n'est pas un terme qu'on utilise quand on parle d'argent. Hein? Rémunérer. Rémunérer, c'est te payer, te donner de l'argent. Ou te donner en retour ce que tu as demandé en échange de ton argent. Donc, quand tu veux quelque chose de la part de Dieu, Dieu te regarde et te dit « Ok, ce que tu veux, c'est disponible, mais est-ce que tu as suffisamment de foi ?» C'est pour cela que les disciples, quand ils ont compris ça, ils ont dit à Jésus dans le livre de Luc, « Seigneur, augmente notre foi. » C'est l'une des phrases les plus puissantes que les disciples ont dites à Jésus. « Seigneur, augmente notre foi. » Ah, parce que quand on se rend compte de ça, on se rend compte que notre foi est trop petite, trop petite. Et souvent, le problème avec beaucoup d'entre nous, c'est ça, c'est qu'on n'a pas assez de foi. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être mis d'accord au préalable? Non. Dieu, c'est quelqu'un qui fonctionne avec la foi. Je vous assure, le jour où vous comprenez que Dieu n'est impressionné ni par les larmes, ni par les cris. Tu peux te rouler par terre si tu veux. Si tu n'as pas la foi, il n'y a rien qui se passe. C'est pour cela qu'il y a des gens qui font église après église, année après année, prophète après prophète, pasteur après pasteur, croisade après croisade, imposition des mains après imposition des mains, gifle après gifle, coup de pied après coup de pied, roulade après roulade, ils sont toujours dans les mêmes conditions. Parce qu'ils n'ont pas de foi. Les gens sont plus impressionnés par l'apparence, par le bruit, que par la foi. Alors que pour pouvoir avoir, pour qu'il y ait un échange entre ta foi et la grâce de Dieu qui va venir dans ta vie, il faut que ta foi soit l'équivalent de ce que tu veux. Plus la promesse est importante, plus la promesse est puissante, plus la promesse produira un impact positif dans ta vie, plus la foi que tu devras avoir devra être grande. Ah oui. Un jour, j'ai rencontré un jeune qui me disait, je lui ai dit, c'est quoi ton rêve dans la vie? C'est quoi ton rêve? Tu rêves? Non, il dit, ouais, je rêve. C'est quoi ton rêve? Il dit, moi, mon rêve, c'est de construire la plus grande société de télécom de l'Afrique centrale, Made in Gabon. Un peu l'équivalent de Liberty, Airtel, tout ça. Mais lui, il veut faire ça au Gabon. Ah, j'ai dit, ça, c'est un grand rêve, ça. Tu as assez de foi pour ça? Il dit, ouais, j'ai assez de foi. J'ai dit, hein, c'est le temps qui va nous dire. Tu me dis ça, c'est le temps qui va nous dire. Parce que plus le rêve est grand, et plus tu devras avoir de la foi. Amen. Personne ne peut plaire à Dieu, nous dit ce verset, sans avoir la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ici, plaire à Dieu? Ça ne veut pas dire que parce que tu es bien coiffé, que tu plais à Dieu. Ce n'est pas ça. C'est que ça veut dire ici toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu. Celui qui veut toucher le cœur de Dieu, c'est celui qui doit avoir la foi. Et quand on regarde les évangiles, quand on regarde les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, les gens qui ont expérimenté des choses graves avec Jésus, c'était des gens qui avaient la foi. Dis avec moi la foi. La deuxième vertu qu'on peut citer ici au sujet de la foi, c'est que la foi est la fondation à l'accomplissement de toute vision dans la vie. Dis avec moi la vision. Si tu as une vision dans la vie, si tu as un rêve, comme je viens de le dire, tu vas devoir avoir la foi. Quel que soit l'âge que tu as, que tu aies 10 ans, que tu aies 15 ans, que tu aies 20 ans, 30, 40 ans, quelle que soit la vision, quel que soit le projet, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'organisation, quel que soit ce que tu veux faire, quelle que soit la carrière professionnelle, sportive, musicale, peu importe, quel que soit ce que tu veux faire, tu vas devoir avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras rien avoir. Parce que dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par la foi. Amen. Et la foi, c'est la fondation. On ne peut pas accomplir une vision sur la terre si on n'a pas la foi dans cette vision. La foi est le prérequis avant de se lancer dans la poursuite d'un rêve que Dieu a déposé dans notre cœur. C'est le prérequis. C'est comme quand tu veux démarrer une voiture, et puis tu regardes l'aiguille, tu vois que l'aiguille est au rouge en bas. Tu fais, oh punaise, il n'y a pas de carburant. Il faut mettre le carburant pour que la voiture avance. Eh bien, c'est pareil dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, celui qui n'a pas de foi et celui qui n'a pas de carburant dans sa voiture, il ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent faire des choses avec le Seigneur. Ils veulent se lever, mais ils n'ont pas la foi. Même quand tu vois leur attitude. Vous savez, si vous voulez juger de la foi de quelqu'un, regardez son attitude par rapport à comment il se comporte, par rapport à ses projets, par rapport au plan de Dieu pour sa vie. Regardez comment il se comporte. Amen. Donc, tu dois croire. Et même si le rêve, il vient de Dieu, même si le rêve que tu as, c'est vraiment Dieu qui a mis ça dans ton cœur, c'est vraiment Dieu qui en est la source, c'est vraiment Dieu qui en est à l'origine, si tu n'as pas la foi, le rêve ne s'accomplira pas. C'est pour ça qu'il y a des destinées qui ont été avortées. Il y a des gens qui étaient destinés à devenir grands sur la terre, mais ils n'ont pas eu suffisamment de foi. Un jour, il y avait un pasteur qui racontait une histoire que j'ai bien aimée. Et il racontait l'histoire d'un monsieur qui est mort, et puis le monsieur est arrivé au ciel. Quand le monsieur est arrivé au ciel, au moment où il rentre dans le royaume, il y a les anges qui sont à la porte. Et puis l'un des anges dit, bienvenue, bienvenue au paradis, tout ça. Et l'un des anges dit, il pose la question à l'un des anges en disant, dis-moi, ange, parce que moi j'étais sur terre, j'ai été militaire. Toute ma carrière, j'ai été militaire. J'ai une question à te poser. Quel est le plus grand général d'armée de tous les temps? Je me suis toujours demandé quel était le plus grand général d'armée de tous les temps. L'homme qui a fait vraiment des choses extraordinaires avec Dieu en tant que militaire. Et l'ange se tourne sur le côté et l'ange dit, c'est le monsieur que tu vois assis là-bas. Et puis le gars, il regarde, il dit, mais je ne le connais pas, lui. Il n'a jamais été général d'armée de toute la vie. Je connais tous les grands généraux qui ont existé, lui, je ne le connais pas. L'ange dit, le plus grand général de tous les temps, c'est lui, je te dis. Hein? Tu dis, le plus grand général de tous les temps, c'est lui, mais je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit sur la terre. Non, il est le plus grand général de tous les temps parce que c'est son identité pour laquelle il a été créé. Dieu l'a créé pour être le plus grand général de tous les temps, mais quand on l'a envoyé sur terre là-bas, de 0-1 à je ne sais pas quel âge il est mort, il a toujours eu peur de s'engager dans l'armée. Il a toujours eu peur de se lancer dans ses rêves. Et il a fini misérable. Il a fini misérable. Il est décédé. Bon, il a eu le temps de faire des enfants, tout ça. Mais dans son cœur, il a toujours ressenti de grandes choses à accomplir avec Dieu en tant que militaire. Mais il ne les a jamais faites. Et aujourd'hui, il arrive au ciel et puis il est assis. Et c'est pour ça que tu ne le reconnais pas. Parce qu'il n'a pas eu suffisamment de foi en Dieu. Pourtant, le rêve, c'était Dieu qui le lui avait donné. Mais il n'y a pas cru. Amen. Donc, sans la foi, quelle que soit la vision, tu es condamné à l'échec. Si tu as un projet dans ton cœur, pour ta carrière professionnelle, pour ton entreprise, pour ta destinée, pour le ministère, quel que soit ce que tu veux faire, il faut que tu aies la foi là-dedans. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans le psaume 127, au verset 1. C'est un psaume, c'est un verset très intéressant. Psaume 127, au verset 1, nous dit, j'ai pris la version français courant, « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit que celui qui veut bâtir quelque chose, si Dieu ne bâtit pas avec lui, s'il ne croit pas que Dieu est en train de bâtir avec lui, il bâtit en vain. Il va droit vers le mur. Et nous tous dans la vie, on a envie de bâtir des choses. Nous tous dans la vie, on veut bâtir des choses. Mais si on ne croit pas que Dieu est avec nous, ça ne sert à rien. Dis avec moi la foi. Sans la foi, il n'y a pas de futur possible. Sans la foi, tout projet dans lequel tu te lanceras sera voué à l'échec. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ta foi sera suffisamment grande pour accomplir tous les projets que le Seigneur a déposés dans ton cœur pour 2015. Que quelqu'un dise Amen. Troisième vertu de la foi. La foi est cette force divine en nous qui engage l'intégrité de Dieu. La foi est cette force divine en nous qui engage l'intégrité de Dieu. Dis avec moi une force divine. Pourquoi je dis force divine? Parce que la foi, c'est divin. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui vient du naturel. La foi, c'est quelque chose de surnaturel. Et la foi est une force en nous. Quand on l'active, quelle que soit la promesse que Dieu a faite à ton sujet, il est obligé de l'accomplir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu fais le bras de fer avec Dieu. Et quand tu prends le bras de fer, quand tu prends la main de Dieu et que tu actives ta foi, c'est comme si tu es capable de contraindre Dieu à agir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Donc, quand tu mets ta foi dans la parole de Dieu, que tu t'appuies sur la parole de Dieu, je t'assure, Dieu étant fidèle à sa parole, Dieu est obligé d'accomplir. Où est-ce que je veux dire? Dieu ne peut pas renier sa parole. Donc, quand quelqu'un plaide devant Dieu, quand quelqu'un se tient devant Dieu sur la base de la parole de Dieu et qu'il met toute sa foi dedans, Dieu est obligé de l'exaucer. Amen. Dieu répond qu'à la foi et sur la base de sa parole. Et quand la parole de Dieu est mise en jeu, c'est son honneur qui est mis en jeu. Où est-ce que je veux dire? C'est l'honneur de Dieu qui est mis en jeu. C'est pour ça que, les amis, il faut connaître la parole. Quand tu pries et que tu prends la parole de Dieu, tu prends le verset qui te concerne ta situation et tu dis, Dieu, c'est ce que tu as dit à mon sujet. C'est ce que tu as dit. Tu as dit que toute personne qui croit et qui s'appuie sur cette parole, tu vas l'exaucer. Regardez, Nombre 23, verset 19 nous dit, Livre de Nombre, chapitre 23, verset 19, nous dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Dis avec moi, Dieu ne ment pas. « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, Si Dieu déclare quelque chose, c'est qu'il va le faire. Donc, quand tu prends la Bible, qui est la parole de Dieu, dis amen à ça, et que tu mets ta foi dans cette parole, dans la Bible, Dieu va t'exaucer. La Bible est appelée la constitution du royaume des cieux. La Bible est le livre dans lequel il y a toutes les promesses, les lois et les clés divines. Quand tu prends la Bible et que tu prends les clés qui sont dedans, ces clés-là servent à activer ce qu'on appelle les promesses dans ta vie. Aucune clé n'est défaillante. Trouve la clé qu'il faut pour ta vie, applique-la à ta situation et je t'assure, tu verras la différence. Regardez encore ce que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit dans Jean, au chapitre 14, au verset 13, tous, dis avec moi tout, tout, fais bouger le plafond. Non, là, le plafond ne bouge pas. C'est pour ça que tu n'as pas de promesses dans ta vie. Fais bouger le plafond. Tout. Oh. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ah. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Tu sais, c'est quoi cette parole-là? Cette parole-là, c'est un chèque en blanc que Jésus-Christ nous a donné. On t'a déjà donné un chèque en blanc. Tu vois, quand tu fais les chèques à quelqu'un, et puis tu lui dis, mets le montant que tu veux. Il ne faut pas faire ça avec les femmes. Si tu fais ça avec les femmes, c'est compliqué. Elles peuvent te vider le compte. Mais ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que son compte est infini. Ça ne finit pas. Tu vois? Donc, tout. La dernière fois, je crois que j'avais évoqué quelque chose comme ça, et puis quelqu'un a dit, même la voiture, ma soeur, tout. Imagine que Dieu se présente un jour dans ta chambre, fils, tu veux une voiture, quelle voiture tu veux? Papa Dieu, je veux la Toyota Corolla qui est là, te demande une voiture, tu veux quelle voiture? Hein? Moi, je demande Porsche Cayenne. Et puis, la personne me dit, mais oh, pasteur, ça veut dire qu'on est devenu cupide. On n'est pas cupide. Hey, faut aimer les bonnes choses dans la vie, non? Les chrétiens, vous n'aimez pas les bonnes choses, pourquoi? Les chrétiens, c'est comme si, dès que tu commences à aimer les bonnes choses, oh, le pasteur est cupide, il aime la prospérité. Et, oh, c'est quoi votre problème? C'est comme si les chrétiens sont destinés à être pauvres, quoi. Mais qui vous a dit ça? Moi, quand je lis ma Bible, Dieu, c'est celui qui tient l'or et l'argent entre ses mains. On l'appelle roi des rois. Tu as vu un roi qui est pauvre? Ah, mais tu sais, il faut être modeste. Il faut être modeste. Arrête ta fausse modestie, là. Va t'acheter la Toyota Corolla. Moi, quand je m'achète une voiture, je m'achète une belle voiture. Au nom de Jésus. Hein? Non, mais c'est vrai. J'ai vu des histoires. Non, mais j'ai vu des chrétiens. Ils sont bizarres. Dès que tu roules dans une maison, tu regardes et tu dis, comment celui-là est devenu orgueilleux. Non, c'est pas qu'il est orgueilleux, c'est toi qui es fauché. C'est toi qui es fauché. Hein? Un jour Dieu te bénit, il te fait grâce. Hein? Il te donne un bon contrat avec ton entreprise. Boum! Allez, 500 millions là, tac! Maman Moukala, 500 millions là, qui arrive là. Tu fais quoi? Tu t'achètes une belle voiture, non? Oh! Si tu achètes la Toyota, non, je suis chrétien, la Toyota Corolla, depuis quand? Ça n'a rien de cupide, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. C'est humain. Un jour, je regardais un comédien français et il avait grandi toute sa vie dans les quartiers très, très pauvres. Très, très pauvres. Et puis, grâce à sa comédie, à son humour, il a percé. Il est devenu célèbre. Et puis un jour, il arrive devant un bâtiment, et puis il y avait des journalistes qui étaient là, et puis il arrive dans une Mercedes, mais une méchante Mercedes. Et puis le journaliste dit, mais monsieur, vous n'avez pas, ça ne vous pose pas de problème de rouler dans cette voiture devant tout le monde comme ça, dans votre cité? Vous pouvez vous acheter une voiture moins chère, non? Le gars, il commence, enfin le comédien s'appelle Jamel Debbouze. Puis il lui fait, tu veux que je te mette une gifle? Hein? Tu veux que je te mette une gifle? J'ai grandi toute ma vie, toute ma vie à prendre le train. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je peux m'acheter une belle voiture. Mais tu veux vraiment que je te tape? Non, entre guillemets, hein, nous sommes en Christ, faut pas aller taper les autres. Hein. Je précise bien. Ah non, après, il dit, bon, soyons sérieux. Toi aussi, Dieu m'a fait... Je suis béni aujourd'hui, j'ai de l'argent. Je peux m'acheter une belle voiture, non? J'ai pas le droit. Non, ce sont les aigris, là. Moi aussi, je vais commencer à porter des t-shirts, les jaloux vont encore maigrir. Amen, on avance, gloire à Dieu. Hein, donc, c'est important de comprendre que quand Jésus-Christ dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Maintenant, tout dépend de ta foi et tout dépend de ta situation. Et bien entendu, Dieu n'est pas fou. Dieu ne va pas te donner quelque chose alors que non seulement tu n'en as pas besoin, mais en plus, il sait que ça peut te tuer. Il y a des gens, par exemple, ils demandent à Dieu certaines faveurs. Dieu ne le leur accorde pas parce que Dieu sait que les personnes en question ne sont pas prêtes. Il y a des faveurs et des grâces que Dieu ne t'accordera pas parce que tu n'es pas prêt. Ça peut te tuer, c'est pour ça qu'il ne te le donnera pas. Il y a par exemple des postes en entreprise que tu peux demander. Tu dis, Seigneur, pourquoi depuis là tu ne me donnes pas le poste là? Parce que tout simplement, s'il te donne ça aujourd'hui, tu risques de gonfler et ça peut te tuer, t'enorgueillir. Peut-être parce que tu n'es pas prêt ou bien peut-être parce que ce n'est pas le temps. Quoique. Amen. Donc, quand ta foi est suffisamment puissante et que tu l'associes au chèque en blanc, le nom de Jésus, sache que tout est possible. Tout est possible. Le ciel se met en mouvement chaque fois que tu dis au nom de Jésus. Oh, quand tu dis au nom de Jésus, le ciel se met en mouvement. Les anges se déplacent. Le surnaturel s'active autour de toi. Le ciel s'ouvre. Et Dieu descend lui-même pour t'exaucer. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit dans le livre de Marc, au chapitre 16, avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout pouvoir. C'est ce que Jésus-Christ a dit, c'est écrit dans la Bible. Tout pouvoir. Tu sais c'est quoi tout pouvoir? Il a un pouvoir sur la vie et la mort. Et il dit le nom, là, mon nom, Jésus, je te donne ça. Utilise ça maintenant. Quoi? Amen. Quatrième vertu de la foi que l'on peut encore évoquer ici, c'est que la foi est la démonstration pratique de notre confiance en Dieu et non en nous-mêmes. Dans le monde, voici la différence entre la foi des chrétiens et la foi des gens du monde. Dans le monde, les gens ont foi. Tu sais que dans le monde, les gens aussi ont la foi. Les gens aussi ont la foi dans le monde. Sauf qu'ils ont la foi en eux-mêmes. Ils ont la foi en leur capacité. Ils ont la foi en leur intelligence. Ils ont la foi en leur propre sagesse. Ils ont la foi en leurs propres moyens. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Et tu sais que la foi du monde peut aussi accomplir des choses, hein? Tu sais pas ça? Oh, les gens ont construit des fusées, ils vont sur la lune maintenant. Les gens ont construit des bâtiments, hein? Moi, je suis allé à New York, j'ai vu de ces bâtiments à New York, j'ai dit, mon Dieu, ça, c'est l'homme qui construit ça. Mais la différence avec ceux qui sont en Christ, c'est qu'eux, ils n'ont pas foi en eux-mêmes, ils ont foi en Dieu. Amen. Ils ont foi en Dieu. Et celui qui veut aller loin avec Dieu, qui veut faire des exploits avec le Seigneur, il doit avoir foi en Dieu, pas en lui-même. Regardez, Jérémie nous dit, livre de Jérémie au chapitre 17, au verset 5, nous dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. En gros, qui galère quoi. Celui qui met sa confiance en l'homme, que ce soit en lui-même ou en quelqu'un d'autre, il s'attirera de problèmes. Mais celui qui met sa confiance en Dieu, Jérémie précise ensuite, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Ça, c'est toi. Dis amen. Donc, toute personne qui veut devenir grand avec Dieu doit faire confiance à Dieu et doit croire qu'en Dieu, s'attendre qu'à Dieu et ne s'appuyer que sur Dieu. Quelle que soit la situation, que ce soit financière, santé, peu importe. Si tu veux obtenir ta promesse, si tu veux entrer en possession de tes promesses, quelle que soit la situation que tu traverses, fais confiance à Dieu. Amen. Les hommes peuvent t'élever et te donner la gloire, mais cette gloire a un prix. Et ce prix s'appelle la mort. Mais quand c'est Dieu qui t'élève, quand c'est Dieu qui te bénit, quand c'est Dieu qui te récompense, ah, cette récompense est toujours accompagnée de distinction, d'honneur, de paix, de prospérité, de percée, etc., etc., etc. Amen. C'est pour ça qu'il faut suffisamment être patient et faire confiance au Seigneur. Avant-dernière vertu, parce que j'en ai donné 6, avant-dernière vertu de la foi, c'est que la foi est le centre de toutes les épreuves qu'on traverse dans la vie. Dis avec moi les épreuves. Rentrer en possession de tes promesses te demandera d'être testé. Dis avec moi testé. La Bible nous dit dans 1 Timothée 6 au verset 12, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, Timothée, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Il n'y a pas d'autre combat sur la terre qu'on doit mener. Le combat le plus important qu'on doit mener sur terre, c'est le combat de la foi. Chaque fois que tu traverses une situation difficile, chaque fois que tu traverses une situation douloureuse, c'est ta foi qui est en train d'être testée. C'est ta foi qui est en train d'être testée. Qui a déjà vu du cristal? Qui a déjà vu du cristal? Le cristal, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? C'est du verre. C'est un verre très spécifique qu'on appelle cristal, j'espère. Et quand tu prends par exemple une assiette en cristal ou un verre en cristal, tu sais, pour former ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis ça dans un four à haut degré, à haute température, pour que ce verre-là, cette matière qu'on appelle cristal-là, se ramollisse et puis qu'on puisse former la chose. Et ensuite, on trempe ça dans de l'eau, puis on laisse sécher. Après, on va polir ça pour que ça devienne encore plus beau. Mais il faut que ça passe en température très élevée. Eh bien, la foi, c'est la même chose. La foi, c'est un peu le cristal que nous avons en nous, le cristal divin. Et cette foi-là, pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse devenir plus forte, plus grande, plus puissante et plus belle, Dieu doit la faire passer par le feu. Toujours. Donc, chaque fois qu'on traverse une situation difficile dans la vie, c'est que derrière, Dieu est en train de façonner ta foi. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. C'est extrêmement important. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, combat le combat de la foi. Le combat, le plus grand combat qu'on a dans la vie, c'est le combat avec nous-mêmes. C'est le combat qui nous pousse à rester, qui nous amène à toujours se battre pour rester debout. Un jour, tu as une situation, boum, ça te fait mal, tu pleures. Tu dis, oh Dieu, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça, Seigneur? Oh, pourquoi? Le plus important, ce n'est pas de savoir ce qui te fait mal sur le coup. Le plus important, c'est de savoir comment tu vas sortir de là. Est-ce que tu en sortiras grandi? Est-ce que tu en sortiras plus fort encore dans ta foi? Tout dépend de comment tu vas sortir de là. C'est pour cela que les disciples, je répète, ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi, parce que c'est compliqué. Donc, chaque fois que tu rencontres une situation difficile, un désert ou un temps de sécheresse, c'est ta foi qui est mise à l'épreuve. N'oublie jamais ça. Il y a des gens, dès qu'ils ont traversé une situation difficile, boum, ils sont partis de l'église. Ils ont perdu quelqu'un, boum, ils s'en vont de l'église. Ils ont été ruinés financièrement, boum, ils s'en vont de l'église. Oh. Mais c'est ta foi qui est éprouvée. Il ne faut pas lâcher. Jésus-Christ a dit lui-même, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre? C'est aussi simple que ça. Regardez ce que Paul nous dit. 1 Corinthiens 10 au verset 13. Paul nous dit, les tentations qui vous ont assaillis jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Donc sache que ce que tu traverses, tu n'es pas le seul à traverser ça. Il y a d'autres qui traversent ça aussi. La différence se fait à la sortie, à la ligne d'arrivée. Est-ce que toi tu arrives en un morceau ou bien tu arrives en rampant, en décapité? Les tentations qui vous ont assaillies jusqu'ici sont communes à tous les hommes. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Un. Donc, deux, ça veut dire que quelle que soit l'épreuve que tu traverses, elle n'est pas plus grande que toi. Les jours, j'ai compris ça. J'ai compris qu'aucun problème n'est plus grand que moi. Aucun. Aucun problème n'est plus grand que toi. C'est pour cela que lorsqu'un problème se tient devant toi, tu dis « problème, tu n'es pas plus grand que moi. » Tu finiras au nom de Jésus-Christ. Tu t'arrêteras. On peut traverser le désert, mais le désert a une fin. Quand il pleut, comme maintenant, la pluie s'arrête toujours, non? Après la pluie, le beau temps. Hein? Vous connaissez pas ce morceau d'un chanteur américain, Dietrich Haddon, qui fait « Sunshine after the rain ». Vous connaissez pas ce morceau? Après la pluie, le soleil brille. C'est ça qu'il dit dans la chanson. Donc, quelle que soit l'épreuve que tu rencontreras, le soleil brillera toujours après. Et il continue en disant, « D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas non plus à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. » Dieu ne peut pas permettre ça. Oh, Dieu n'est pas fou. Dieu ne peut pas permettre que tu traverses une épreuve qui va te mettre à terre. Dieu ne peut pas. Dieu sait juste que tant il permet que l'épreuve arrive, c'est pour te tester. Et l'attitude que tu vas adopter face à l'épreuve, c'est ça qui va déterminer ta note. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au moment de la tentation, il rajoute, au moment de la tentation, il vous donnera la force d'y résister. Et il préparera une issue pour que vous en sortiez quoi? Donc le but du test, le but de la tentation, parce que en parenthèse, le mot tentation ici là, hein, quand on va regarder dans le grec, parce que en fait ça c'est traduit du grec, le Nouveau Testament est traduit du grec, le mot tentation ici, le mot grec derrière, c'est un mot que l'on traduit en français test ou encore épreuve. Donc, quand tu es tenté, c'est un test. Tu vois, comme quand tu vas à l'école et puis tu fais toute l'année à acquérir des connaissances. Et puis, à la fin, test pour voir si tu as compris. C'est pour cela que tous les messages que vous entendez ici à l'église, c'est bien beau. Vous les recevez, vous les entendez. On parle de foi, de grâce, de promesses, d'héritage. Gars, quand tu vas sortir là, c'est là-bas que le test va se passer. C'est dans le test, on appelle ça le test de la vie. Et c'est là-bas que ça se passe. C'est là où on va voir qui va revenir en un morceau. Vous voyez ce que je veux dire? D'où l'importance de prier. Pierre, il était avec Jésus plus de 3 ans. Il a dit, Jésus, jusqu'à la mort. Oh, toi et moi, jusqu'à la mort. Ton pied, mon pied, je sortirai mon épée. Je tue qui? Jusqu'à la mort, Jésus, toi et moi. Jésus l'a regardé, Pierre. Ah, faut pas beaucoup parler. Tu sais, il y en a, il parle. Tu n'as jamais vu des chrétiens comme ça? Ils sont les chrétiens les plus fervents. Oh, Jésus est vivant, tout ça. Dès qu'une petite arrive là, La petite t'a emmené. Vous connaissez pas ce proverbe dans la Bible? Allez lire ça, Proverbe chapitre c'est 5 ou 6. Où il dit, je regardais par la fenêtre et je vis un jeune homme garçon parmi les stupides. Il était là et il vit une jeune femme qui l'emmena et qui lui dit, viens, allons. Et je le vis aller comme un bœuf qui va à l'abattoir. Au début, tu joues les durs, mais quand le test arrive, tu échoues. Et ce que Dieu veut, c'est que tu n'échoues pas et tu n'échoueras pas au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise amen. Donc, on n'obtient pas la distinction comme ça. Pour avoir la distinction, il faut persévérer et se garder pur devant le Seigneur. Et tu seras testé. Tu seras testé. Jacques nous dit, Jacques 1 au verset 12, nous dit, heureux celui qui tient bon. Dis avec moi, tiens bon. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, dis avec moi, faire ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qu'il aime. Heureux celui qui tient bon. Faut tenir bon. Tiens bon. Faut tenir bon. Les jeunes, faut tenir bon. Allez, dis avec moi, je tiendrai bon.
Je tiendrai bon.
Je ne lâcherai pas la main de Jésus. Secoue le plafond. Je ne lâcherai pas la main de Jésus. Ah oui? Alors, sixième vertu, et je pense qu'on finira avec ça. La foi est la seule force ou encore la seule puissance qui te permet de faire bouger l'agenda de Dieu. Je m'explique. Dieu a un agenda. Dieu a prévu des choses. Dieu a un plan. Mais il y a des gens au cours de l'histoire de l'humanité qui ont amené Dieu à changer ses plans. Vous connaissez David? David dans la Bible n'était pas dans les plans de Dieu. Hein. On n'avait jamais entendu parler de lui. David n'était pas prévu. Mais la foi de David a amené Dieu à s'arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on regarde les évangiles, les quatre évangiles, on voit Jésus qui ne réagissait qu'à la foi. Et il y a des gens dans les évangiles qui n'étaient pas prévus dans l'agenda de Jésus. Vous n'avez jamais vu des gens, Jésus, passer. Et la personne a une attitude qui amène Jésus à s'arrêter. Ah, lui, il faut que je l'exauce. Il n'était pas prévu. Et il y en a un comme ça dans la Bible. Il est extraordinaire. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Bartimée. Vous connaissez Bartimée? Oh, Bartimée, dis avec moi Bartimée. Ah, ça, c'est mon gars, ça. Allez, Marc, chapitre 10, au verset 46. Marc, chapitre 10, au verset 46. On va lire rapidement. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, dis avec moi Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Dis avec moi, il se mit à crier. Il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus passait. Il n'était pas dans le programme de Jésus. Est-ce que Jésus avait prévu d'arrêter de guérir Bartimée quelque part? Non. Il y a plein de gens qui étaient malades dans la rue. Jésus voyait des malades tous les jours. Est-ce que Jésus les guérissait tous? Donc Jésus ne guérissait pas tout le monde. Et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Jésus s'arrêta. Dis avec moi, Jésus s'arrêta. Il faut que Jésus s'arrête pour toi en 2015. Il faut qu'il s'arrête pour toi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dis avec moi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau. Se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse, que je te fasse? Il dit, Rabouni, tu as déjà appelé Jésus comme ça, Rabouni. Rabouni, c'est le petit nom de Jésus pour les intimes, Rabouni. Quand on sera tous seuls, on va l'appeler Rabouni. Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
Tout est une question d'attitude. Et c'est l'attitude qui fait la différence. C'est l'attitude qui fait la différence. La première attitude qui a bousculé l'agenda de Jésus, la première attitude que Bartimée a eue, c'est qu'il s'est mis à crier. Dis avec moi, il s'est mis à crier. Il a crié pourquoi? Parce que sa vie en dépendait. Il a dit, aujourd'hui là, Dieu va s'arrêter pour moi. Aujourd'hui là, Jésus ne passe pas. David dit dans le livre des psaumes, psaume chapitre 6 au verset 10, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Psaume 28 au verset 2, il rajoute, écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Psaume 88, verset 2, il rajoute encore, que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications. Tu sais, c'est quoi des supplications? On crie. Amen, alléluia, nous allons prier, prions. Tu es dans la galère. Tu es dans la galère. Souviens-toi que tu es dans la galère. Dieu n'exauce pas les gens. Il faut crier. Il faut que Dieu t'entende et qu'il s'arrête. La deuxième attitude que Bartimée a eue, après avoir crié, la Bible dit qu'on voulait le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Ici, on parle de persévérance et de détermination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, tu sais, il y a des gens ou des situations qui vont te pousser à te taire. Est-ce que tu sais ça? Tu vas traverser, tu vas connaître des situations dans ta vie où qui vont te pousser à te taire. Où il y a même des gens que tu aimes, des proches qui vont vouloir te dire, arrête-moi ça, ton histoire de Dieu là, laisse tomber. Si tu n'es pas suffisamment persévérant, tu vas arrêter, tu vas renoncer et Dieu passera. Où est-ce que je vais dire? Oh oui, c'est extrêmement important. Je vais lire rapidement un autre verset. Je vais prendre directement la parole vivante. Hébreux 6 au verset 11, parole vivante, il dit, « Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle. » Dis avec moi, sois zélé. Pour affermir ses convictions jusqu'au moment où vous verrez la réalisation de votre espérance. Alors vous ne risquerez pas de relâcher votre effort et de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi, je me suis arrêté au verset, mais j'ai oublié la suite. Il dit, par leur foi, leur persévérance et leur attente patiente sont entrées en possession de l'héritage promis. Je te laisserai lire le verset. Il a été persévérant. Ça, c'était la deuxième attitude. La troisième attitude de Bartimée, c'est qu'il a été courageux. Dis avec moi le courage. Il a été courageux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son courage à deux mains. Les gens l'ont regardé, ils lui ont dit, sois courageux, lève-toi. Sois courageux. Et pour entrer en possession des promesses, pour pouvoir réaliser les projets que tu as à cœur, tu vas devoir être courageux. Pourquoi est-ce que, ici je précise le courage? Parce que tout simplement, le courage, c'est le remède à la peur. Rappelez-vous de Josué, chapitre 1. Quand il avait peur, Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, sois courageux. Vous vous rappelez pas? Oh. Josué 1, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui est en train de parler au jeune Josué qui n'a que 20 ans, qui est devenu chef. Et Dieu lui dit, sois courageux et fort. Dis avec moi, sois courageux. Car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort. Dis avec moi, sois courageux et fort. Et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Et médite les jours et nuits de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront comme tous les projets que tu as. Mais n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et... Hey, c'est écrit dans la Bible. Hein? Tu savais ça? C'est écrit dans la Bible. N'oublie pas d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Souviens-toi toujours de ces paroles. Ça, c'est l'une des paroles, pendant un temps, j'avais imprimé ça, et puis j'avais accroché ça dans ma chambre, quand j'étais étudiant. Et je lisais ça tout le temps. Quatrième attitude de Bartimée, il jeta son manteau. Le manteau, ici, représente un poids qui pesait sur lui. Bartimée décide de se débarrasser de ce poids qui l'empêchait d'aller de l'avant. De quel manteau on parle ici? Le manteau de la cécité aveugle, le manteau de la honte, le manteau de la misère, le manteau de la pauvreté, le manteau de l'handicap, tout ce qui pouvait l'empêcher de se lever. Imagine qu'il se lève et il jette le manteau. Tu as des manteaux qui puent là, des gens qui sont auprès de là, il prend, il dit, je ne veux plus de ça, c'est fini, ma vie change aujourd'hui. Il jeta. Tu sais, il y a des choses dans ta vie que tu dois jeter. Même des gens. Il y a des gens, des catégories de gens dans ta vie, tu dois juste te séparer. Il y a d'autres gens, tu dois supprimer leur numéro de téléphone. Et il y a d'autres gens, tu dois les jeter. Tu sais c'est quoi jeter quelqu'un? Quitte-la, laisse-moi tranquille. Ne m'appelle plus. Ne m'appelle plus. Mais toi, laisse-moi tranquille. Je ne veux plus te voir. Tu es chrétien, non? Et alors, laisse-moi tranquille. Où est-ce que je vais dire ou pas? Cinquième attitude de Bartimée, il se leva d'un bond. Se lever ici fait référence à prise d'une décision, à passer à l'action. Il y a des choses aujourd'hui dans ta vie, tu tournes en rond parce que tu n'étais pas décidé. Tu n'es pas encore passé à l'action. On parle. Comme on dit au quartier, ce n'est pas la wop-op. Faut arrêter de parler, il faut passer à l'action. Il faut t'engager. Il faut te lever. Et il faut y aller. Parce que devant la récompense, c'est la promesse. Et 2015 est déjà à la porte. Et 2014, tu ne t'es pas suffisamment levé, mais là, tu dois te lever. Amen. Sixième attitude, il vint vers Jésus. C'est-à-dire, il renonça à lui-même. Il renonça à sa propre vie et s'engage à aller vers Jésus. Et il y a des situations dans ta vie où tu vas devoir faire confiance totalement à Christ et à le suivre. Il faut arrêter de douter. Et suffisamment de foi et marche avec le Seigneur. Et va avec lui. Parce qu'à la fin, quand il arrive devant Jésus, et c'est ce qui t'arrivera aussi, Jésus-Christ lui a posé une simple question. Il a dit, que veux-tu que je te fasse? Imagine que Dieu vient se présenter à toi et il te pose la même question. Que veux-tu? L'une des grandes raisons d'échec dans la vie des gens, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est une maladie aujourd'hui que l'on retrouve beaucoup aussi chez les jeunes. Les jeunes ne rêvent plus. Les jeunes, quand tu vas à l'UOB, tu t'assois avec les jeunes, ils ne rêvent plus. Ils ont plus rien dans la vie. Ils sont juste là, ils sont juste découragés, ils sont dépassés du pays. On est fatigué. Ils sont maintenant contaminés par les mêmes phrases que les vieux disent là. Ah, tu sais, les choses du pays. À 20 ans, ils commencent déjà à parler comme ça, les choses du pays. Tu es foutu. Il ne faut pas parler comme ça. Et lui, il ne faut pas parler comme ça. Si le juge t'entend parler comme ça, tu ne joues plus au piano ici. Les choses du pays. Oh non. Et là, Jésus-Christ dit, que veux-tu que je te fasse? Et il a dit ce qu'il voulait. Il n'a pas demandé d'argent. Il a juste dit, je veux retrouver la vie. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 1 au verset 18, Dieu nous dit, viens et plaidons ensemble. Plaider, ça veut dire quoi? Ça veut dire parle, défends ta cause. Et ça nous parle de prière. Amen. On a fini. Ça nous parle de prière. Dis ce que tu veux. Va devant la face de Dieu et dis ce que tu veux. Que tes actions, ton attitude puisse refléter exactement ce que tu veux. Et pour ça, tu auras besoin de foi. C'est la foi qui fait réagir Dieu. Pas les larmes, pas l'apitoiement, la foi. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux supplier. S'il n'y a pas la foi derrière, tu n'obtiendras rien. Amen. Donc, quel que soit le nom que tu portes, quelles que soient les souffrances par lesquelles tu passes, quelles que soient les souffrances que tu endures aujourd'hui, c'est ta foi qui fera bouger Dieu. C'est ta foi qui va faire bouger l'agenda de Dieu. Peut-être que tu n'étais pas prévu dans l'agenda de Dieu, mais je t'assure, si tu as suffisamment de foi, 2015 sera ton année. Et tu viendras avec un témoignage. Tu diras, oh pasteur, tu te rappelles l'enseignement que tu avais donné sur la foi, non? J'y ai cru et voici mon projet. Et bien plus encore, tu viendras avec une méchante offrande et tu diras, je rends grâce à Dieu, voici l'offrande que je fais pour le Seigneur. Amen. Et tu témoigneras de la bonté du Seigneur. 2015, tu ne mourras pas, tu vivras. Non seulement tu raconteras les œuvres de l'Éternel, mais tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Tu témoigneras, tu auras des témoignages familiaux, tu auras des témoignages financiers, tu auras des témoignages en termes de carrière, tu auras des témoignages dans le ministère, tu auras des témoignages, peu importe. Mais je t'assure, les mois qui arrivent là, saisis cette parole-là et accroche-toi à cette parole-là. Crois et la foi. Quel que soit le projet qu'il y a dans ton cœur, tu le connais. Quel que soit l'appel que tu as reçu sur ta vie, tu le connais. Fais confiance au Seigneur. N'aie pas peur de commencer de zéro. Fais-lui confiance. Toutes les ressources, les provisions viennent de lui. Fais-lui confiance. Et la foi. Et la foi. Et la foi. La foi qui prend possession des promesses. La foi qui saisit l'héritage. C'est une foi violente. Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 12, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » De même, que tu sois fils de Dieu ou pas, je t'assure, la foi est universelle. La différence avec le chrétien, c'est que le chrétien, lui, il a la foi en Dieu et suffisamment de foi en Christ. Ta vie changera. N'aie pas peur de croire que ta vie va changer. N'aie pas peur de croire que Dieu te destine à être grand. N'aie pas peur de croire que Dieu te destine à accomplir de grandes choses. N'aie pas peur de ça. Faut pas avoir peur. Parce que si Dieu est appelé le roi des rois et que je suis prince, roi sur la terre, alors c'est que je suis aussi appelé à être grand. Amen. Béni sois-tu, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et merci pour ta parole qui édifie, qui donne de l'intelligence aux simples. Merci, Père, parce que, Seigneur, notre foi, Seigneur, nous l'appuyons que sur toi. Merci parce que toutes les fois où nous avons fait confiance aux hommes, tu nous as montré que les hommes ne nous apporteraient rien, Seigneur. Les hommes peuvent être bons, les hommes peuvent être gentils, aimables. Ils peuvent même nous aider et nous apporter de très bons conseils, Seigneur. Mais Seigneur, notre foi, c'est seulement en toi que nous devons la mettre. Particulièrement quand il s'agit des promesses. Nous sommes héritiers des promesses en Jésus-Christ. Et pour que ces promesses puissent voir le jour, il faut qu'il y ait une rencontre, un contact avec ta grâce, Seigneur. Que ta grâce puisse trouver suffisamment de foi dans mon cœur pour voir ma vie être transformée, être changée. Oh Dieu, je te fais confiance. Je crois que tu as un plan pour ma vie. Je crois que tu as des promesses pour ma vie. Et je crois que tu es sur le point de faire de grandes choses dans ma vie, Père. Merci pour, Seigneur, la capacité que tu me donnes d'accomplir tout ce à quoi tu m'appelles, Seigneur. Merci pour ta parole qui n'est pas tombée dans une terre stérile, mais dans une terre fertile, afin qu'elle porte du fruit et que ma vie puisse être un témoignage à ta gloire. À toi soit la louange et à toi soit toute mon adoration, Père, pour l'œuvre que tu as commencée dans ma vie et que tu rendras parfaite dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père. À toi la gloire et la louange. Est-ce qu'on peut se lever, acclamer le Seigneur et dire Amen, Amen, Amen.
Pour la vérité et pour le chemin.
On va prendre juste le chant.
Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Oh, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin.
Merci parce que tu entends nos cœurs. Merci pour la vie, pour la vérité de ta parole et pour ta présence. Je te recommande encore chacun d'entre nous. Je te recommande chacun de tes enfants. Tu connais la destinée de chacun. Tu connais les plans de chacun. Père, je prie que tu étendes ta main sur chacun, Seigneur. Que tu transformes le cœur de chacun et que tu puisses te révéler à chacun et à chacune, Père. Merci parce que tu es celui qui fait de grandes choses dans nos vies, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine qui commence avec toi, Père. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être en communion avec toi chaque jour de cette semaine, de te rencontrer, de te connaître, de méditer ta parole et de chercher davantage, Seigneur, les promesses que tu as pour nous, Père. Merci parce que toutes ces promesses sont accomplies en Jésus-Christ. Nous en prenons possession par la foi au nom de Jésus-Christ et nous rendrons témoignage demain pour toi. Béni sois-tu encore au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à la Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.